Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria à haute voix et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi, car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant m'a fait de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les petits, il a rempli de bien ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vivre. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, ce dont il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois. Et elle s'en retourna en sa maison. Nous arrêtons là. Et nous essayons, à l'intention de nos amis qui n'étaient pas là hier, de résumer aussi succinctement que possible ce que nous avions devant nous hier soir. Nous disions tout d'abord que l'occupation excellente entre toutes, c'est de nous occuper du Seigneur dans un temps mauvais, où, comme le disent les fils des prophètes, la mort est dans la marmite, un souffle de mort qui passe partout. L'homme de Dieu avait une ressource que nous possédons maintenant, qui se trouve précisément devant nous lorsque nous lisons les évangiles. Cet homme de Dieu fait déposer dans la marmite de la farine. Et tout le contenu de cette farine qui était mauvais est entièrement transformé et chacun peut en absorber selon ses besoins. Telle est la valeur de Christ quand nous l'introduisons dans nos difficultés, quelles qu'elles soient, comme le bois qui autrefois était jeté dans les eaux, le caractère de celle-ci est tout à fait transformé. Nous avons essayé hier de voir ensemble le caractère des 4 évangiles que les hommes ont essayé de fondre en un. Profonde erreur, nous l'avons vu. Nous rappelons que le Seigneur est présenté sous 4 aspects différents, sous 4 éclairages différents, l'Esprit de Dieu mettant en valeur et en évidence sous la plume de chacun des évangiles, des évangélistes, une gloire particulière du Seigneur. Nous la trouvions déjà, avons-nous vu, annoncée dans l'Ancien Testament, par exemple dans les parfums du sanctuaire ou dans les étoffes qui constituent le voile du tabernacle, le bleu, la pourpre, l'écarlate, le fin coton retors, pour la foi. Dieu nous dit déjà, voilà les gloires essentielles de mon Fils qui un jour paraîtra sur la scène. Alors nous avons vu que Matthieu écrit spécialement pour les Juifs, que c'est lui qui donne le plus de citations de l'Ancien Testament pour bien établir que Jésus qu'il présente est bien le Messie promis par les prophètes depuis le commencement. Matthieu, nous avons vu, c'est important, introduit le Seigneur par 3 passages fondamentaux. Au moment de sa naissance par Michée, qui cite Bethléem, au moment de son ministère, le prophète Ésaïe, qui montre quelle sera la sphère de son ministère, et enfin, au bout de son chemin, quand il entre à Jérusalem, sur le petit bulletin d'un nom, pour être présenté à la ville de Sion, chez le prophète Zacharie. Donc, Michée, Ésaïe, Zacharie présente le Seigneur à 3 moments bien distincts en relation avec son ministère sur la terre depuis le commencement. Matthieu, a-t-on dit, fait la démonstration que Jésus est bien le Christ. Marc, au contraire, lui, il dépeint la vie du parfait serviteur. Luc décrit le caractère du Seigneur dans cet évangile, souligné de façon toute particulière comme étant le Fils de l'homme, écrit par un grec, à l'intention d'un grec, pour montrer l'universalité de la grâce de Dieu à travers le Fils de l'homme, celui qui a pris notre nature, sans péché sans doute, afin d'être celui par lequel toute la grâce de Dieu va se déployer, non pas seulement envers Israël, mais en faveur de tous les hommes. Quel est le psaume le plus bref, le plus court de l'Ancien Testament? Chacun sait que c'est le psaume 117. Et il suffit de voir comment l'apôtre va le citer en passant, pour intéresser nos jeunes amis à chercher des détails, à s'arrêter quand il y a des détails. Il n'y a rien d'inutile en parole de Dieu. Eh bien, Paul va citer ce court psaume de deux versets de façon toute différente que celui qui était écrit, que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Or, personne ne se serait jamais arrogé le droit de modifier le texte de l'Ancien Testament qui était considéré comme sacré par les Juifs. Si une citation diffère dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à partir de l'Ancien, nous avons donc une des preuves, entre beaucoup d'autres, de la divine inspiration de l'Écriture. Car jamais aucun exégète après le Nouveau Testament ne se serait permis de changer même une syllabe du texte appelé des Septante. Bien, nous lisons le psaume 115, c'est tout à fait pour les nations, il n'y a plus rien pour les Juifs. Romains 15, et encore, dit-il au verset 10, il dit « Nation, réjouissez-vous avec son peuple », c'est le Deutéronome qui est cité, et encore « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et que tous les peuples te célèbrent ». Plus un mot pour Israël. L'apôtre montre dans ce passage que la grâce de Dieu est bien semblable à Joseph, à la branche qui porte du fruit par-dessus la muraille. Donc, Luc a un caractère tout particulier, celui de fils de l'homme, écrit par un grec, pour un grec, pour montrer l'universalité de la grâce de Dieu. On veut qu'il est adressé à un homme qui occupait un rang élevé dans la société romaine, puisque Festus et Félix, qui sont gouverneurs, sont appelés eux-mêmes des très excellents. Ce personnage, Théophile, est donc quelqu'un qui occupait un rang élevé dans la société. Mais quand Luc a écrit son deuxième traité, le livre des Actes, nous ne trouvons plus qu'il écrit au très excellent Théophile. Nous avons essayé de voir ensemble, certainement à la lecture de cet évangile selon Luc, quand cet homme a considéré l'anéantissement volontaire, l'abaissement du Fils de Dieu, naissant dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'autellerie. Il n'est pas dit qu'il n'y avait pas de place dans l'autellerie, mais il n'y avait pas de place pour eux, parce qu'il était tellement pauvre, ses parents tellement pauvres, qu'il ne pouvait pas payer ce qui était nécessaire pour avoir une place dans l'autellerie. La preuve, c'est que, pieux comme ils étaient, ils ont recours à la miséricorde, à la mesure miséricordieuse de la loi, lorsque, présentant le Seigneur au temple, à l'âge de 40 jours, pour l'établir, par le Lévitique, ils n'offrent pas l'agneau qui est requis, ils doivent se contenter d'offrir deux tourterelles. Il n'y avait rien de plus commun. Donc, pour montrer, il a vécu dans la pauvreté, mais afin de nous enrichir. Sauf que Théophile, ayant lu aussi que tout ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, a certainement dit à Luc, désormais Luc, je ne suis plus très excellent. Comment pourrions-nous requérir, revendiquer un droit quelconque pour le moi naturel? Qui est en vous cette pensée, dit Paul, qui a été dans celui qui s'est abaissé lui-même, anéanti lui-même, prenant la dernière place, la forme d'esclave, alors qu'il était en forme de Dieu. Que pourrions-nous nous revendiquer pour nous-mêmes? N'est-ce pas, nous avons hier la source de bien des débats au milieu de nous. Nous voulons affirmer notre volonté, notre point de vue, au mépris parfois des enseignements les plus clairs de la parole de Dieu. Nous étions tous, mais nous le disons d'abord pour nous-mêmes, croyez-le bien, si nous étions tous caractérisés par cette humilité et par cette obéissance dont le Seigneur a été le parfait modèle, la majeure partie, ce n'est pas toute, nos difficultés disparaîtraient. Cela, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas le nier. Donc nous avons vu que Jean est le disciple qui présente le Fils du Père. Alors nous avons, dans les humains, Matthieu, c'est l'exposé d'une déclaration du prophète, voici mon roi. Prophète Zacharie, chapitre 3, voici ton roi. Prophète Zacharie, chapitre 9, pardon, voici ton roi. Chapitre 3 de ce même prophète Zacharie, voici mon serviteur, l'évangile selon Marc. Même prophète, chapitre 6, voici un homme dont le nom est germe, il germera de son propre Dieu, et nous avons vu à quoi correspondait le terme germe, en même temps à l'humilité dans laquelle il a voulu naître, en prenant notre humanité sans tâche, racine qui sort d'une terre aride, et en même temps l'Orient d'en haut qui vient nous visiter. Les deux termes, l'Orient d'en haut et la racine qui sort d'une terre aride, sont réunis dans ce terme, le germe, celui qui a la vie en lui-même, venant de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Alors voici ton roi, voici mon serviteur, voici un homme, et pour Jean, Ésaïe 40, voici votre Dieu. Nous avons vu ensemble, hier, pour aborder un peu maintenant ce que nous avons devant nous, que Luc s'adresse à Théophile et exprime bien, en termes un peu voilés, qu'il est écrit par inspiration. À côté d'autres récits qui étaient reçus avec une certaine autorité, mais qui n'étaient pas inspirés, on sait que beaucoup d'écrits de ces temps-là ont été présentés, mais qui ne sont pas inspirés. Ce sont des choses apocryphes, comme on les appelle. Mais Luc écrit, mais par inspiration. Le Seigneur l'a conduit à nous donner l'histoire du Seigneur Jésus présenté comme le Fils de l'homme, nous y reviendrons. Et il commence par un commencement. Il débute par un commencement. Nous avons essayé de voir les divers commencements. Nous rappelons qu'ils sont plusieurs, il ne faut pas les confondre. Qu'il y a le commencement de la création, à partir d'un certain moment, ce qui n'était pas a existé, le Seigneur a parlé, la chose a été. La puissance de Dieu est à l'œuvre, elle est attribuée à Dieu, au Seigneur, aussi bien qu'à l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas établir, à mon vu, une espèce de hiérarchie entre les personnes divines. Le Seigneur est celui pour qui et par qui tout a été créé. Les choses ont été créées par Dieu, et elles sont aussi le fruit de l'opération du Saint-Esprit. Commencement en Genèse 1, à partir du moment où les mondes sont sortis du néant. Commencement de l'évangile selon Jean, un commencement indéfinissable, qui surpasse infiniment toute capacité humaine. Nous ne pouvons pas embrasser l'éternité, ni ce que Dieu est en lui-même. Ce que la parole est à Dieu, le Fils est au Père. Alors, au commencement de l'évangile selon Jean, aussi loin que nous puissions reculer, la parole était déjà là. Elle était Dieu, elle était auprès de Dieu, et nous l'avons vu, il y a la divinité, il y a l'identité de la parole de Dieu, et l'éternité. Trois termes essentiels, dans une simple proposition. Nous avons donc ce commencement répété dans la première épître de Jean. Ce n'est plus le même commencement, c'est le commencement du ministère du Seigneur. Et ici, pour arriver à notre sujet, pour ne pas trop nous attarder, le commencement c'est dans les tables. Nous donnons le récit de la vie du Seigneur dans l'humanité qu'il a revêtue commence dans les tables avec des. Puis le commencement que l'on a vu, ce petit enfant emmailloté couché dans une crèche. Quel sujet d'admiration, ça. Que pourrons-nous dire? Que pourrons-nous penser? Ne pourrons-nous pas employer les paroles de Paul dans l'Épître à Timothée, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Les anges, pour la première fois, ont pu voir le Créateur, car nous savons bien qu'il se voilait la face, des serviteurs empressés pour accomplir sa parole, qui ne sont pas tombés dans le péché, mais en paraissant devant le trône de Dieu, qui se voile la face, se couvre les pieds, et il proclame « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées ». Et ces anges désirent de regarder de près dans ce mystère pour eux, incompréhensible, qui dépasse toute conception, comment Dieu a-t-il daigné, voulu, envoyer son bien-aimé, celui qui était si grand, pour s'occuper d'être tel que vous, tel que moi. Qu'est-ce que l'homme, que tu te sois souvenu de lui? Bien, le commencement, dans l'épître de Jean, c'est donc le début du ministère du Seigneur, ici, c'est dans les tables. Alors, nous revenons à notre sujet essentiel. Nous avions devant nous, avant l'idée, de présenter les caractères d'un résidu fidèle au début de cet évangile. Parce que, bien que cet évangile soit écrit par un grec, il n'a rien de commun avec le peuple juif, et à l'adresse d'un grec, un homme des nations, c'est pourtant dans cet évangile que nous allons trouver des tableaux très beaux, très saisissants, des tableaux très émouvants de l'existence d'un petit résidu, faible sans doute, mais fidèle, dans un temps extrêmement pénible. La Judée est sous l'apôtre romaine, les circonstances sont aussi défavorables que possible, mais Dieu ne s'est jamais laissé en aucun temps, ni n'importe où, ne s'est jamais laissé sans témoignage. Évidemment, il y a un témoignage aujourd'hui. La question n'est pas de dire « nous sommes le témoignage », parce que si nous l'affirmions, nous serions tout à fait caractérisés par une prétention inouïe, sans aucune réalité. Le témoignage, aujourd'hui, nous le savons par les églises de l'Asie, c'est Philadelphie, qui se caractérise par deux faits essentiels. J'ai gardé ma parole, pas une partie de la parole, mais toute ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Le nom du Saint et du Véritable, deux choses essentielles, deux piliers sur lesquels le témoignage est articulé. Nous pouvons dire, avant de fermer la parenthèse, qu'au siècle dernier, en 1825 environ, on peut dire que les saints qui ont été réveillés par l'Esprit de Dieu, c'était un résidu qu'on pouvait appeler Philadelphie. Une preuve. C'est que vous pouvez reculer dans l'histoire de l'ecclésiastique, vous ne trouverez jamais un groupement chrétien établi sur le pied de Philadelphie, à moins de retourner jusqu'à Philadelphie historique. Mais vous ne trouverez pas, à partir du commencement jusqu'en 1825, un témoignage chrétien établi sur le pied de Philadelphie. Mais ce témoignage est d'une telle importance pour Dieu, bien qu'il soit faible extérieurement, qu'il emploie une église d'Asie fidèle pour qualifier ce petit témoignage du siècle dernier. Et vous savez bien, la parenthèse, nous l'avons affirmé, qu'un témoignage n'a jamais duré plus de 100 ans, en général. Je ne sais plus avec qui nous parlions de cela, ici peut-être même, entre le moment où la gloire est descendue dans le temple de Salomon, c'est l'apothéose de l'histoire d'Israël. La gloire descend du ciel, vient remplir le Saint des Saints lorsque l'arche y est entrée, c'est une histoire. C'est un épisode extraordinaire de l'histoire d'Israël. Combien de temps après le prophète Élie doit-il poser la question « Qui est Dieu ? Qui est Élohim ? C'est l'Éternel ou c'est Baal ? » Ils ne le savent plus. Combien de siècles se sont écoulés depuis que la gloire est descendue dans le temple, depuis le jour, on ne sait plus en Israël si c'est l'Éternel ou si c'est Baal qui est Élohim, ou Dieu dans sa majesté. Combien de siècles ? 100 ans. Il y a 100 ans que la gloire est descendue quand on a déjà oublié qu'il y a l'Éternel. Et l'histoire de Jérémie, chers amis, n'a pas manqué de suivre la même pente. Tout ce qui a été confié dans les mains de l'homme, tout a toujours été gâté, tout a été perdu. Et s'il y a aujourd'hui un petit témoignage maintenu, à condition que nous revêtions ces caractères, parce que nous n'oserions pas dire que les assemblées sont Philadelphie dans leur entité, bien entendu, mais il y aura un caractère philadelphien jusqu'à la fin. À nous de savoir si nous en faisons partie et à nous de désirer ardemment d'être comptés parmi ceux que le Seigneur dira, voilà quelqu'un qui représentait Philadelphie, c'est-à-dire ce qui était agréable à mon cœur dans des temps mauvais, dans des temps difficiles. Plus nous avançons, plus les choses seront difficiles, mais cela, la fidélité aura d'autant plus de prix pour le Seigneur. Dans l'évangile selon Luc, les choses extraordinaires pour nous montrer le prix que le Seigneur attache à un petit résidu, c'est un étranger qui va nous parler du petit résidu juif dans les premières pages de son évangile avant d'aborder le sujet dans sa véritable dimension. Il va d'abord nous montrer comment vivait ce résidu, ce qui remplissait leur cœur, quelle était leur activité. Et il va nous faire entendre, chers amis, c'est de toute beauté, c'est un encouragement, c'est bien pourquoi nous avions un peu ceci devant nous, il va nous faire entendre, dans un temps où nous serions peut-être tenter de nous décourager, ou amener à nous lasser, nous décourager, eh bien, Luc va nous faire entendre sept cantiques. Il y a un tableau du résidu en sept parties, et chacune de ces parties, chacun de ces petits noyaux qui constituent ce résidu chante un magnifique cantique. En commençant cet évangile hier, encore nous avons vu que Zacharie et Élisabeth seront donc les parents du plus grand homme de la terre, qui seront donc ceux qui vont amener sur la terre Jean-Baptiste, celui dont le Seigneur dira « c'est le plus grand des hommes que la terre ait porté ». Mais, semblable à Abraham et Sarah, Isaac, Rebecca, Elkanah et Anne avant voulu, ils sont impuissants, sont trop âgés, il n'est plus possible pour eux, selon la nature, d'être les organes pour amener sur la scène celui qui était annoncé par deux prophètes. Chose extraordinaire, le prophète Jean-Baptiste qui est en fait le dernier prophète, qui est le témoin du Seigneur, qui est l'ami de l'époux, il est annoncé, chose exceptionnelle, par deux prophètes. Nous ne trouvons jamais cela dans l'Ancien Testament. Mais son ministère est tel, il a une telle valeur que Ésaïe le présente et Malachie le présente. Et le voici maintenant, il va bientôt entrer en scène, il va bientôt naître. Mais Dieu va nous montrer que, en raison de ce que sont les parents, chers amis, de leur état de mort, qui ne peut plus rien produire, Dieu va nous montrer qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, qu'il n'a pas besoin de vous, ni de moi, ni de personne, pour faire jaillir ce qui est nécessaire pour sa gloire. Et ses parents, il y a longtemps qu'ils ne prient plus sans doute pour avoir un enfant. Élisabeth est stérile, on comprend bien qu'il n'a plus d'actualité à leur prière aujourd'hui. Et pourtant, l'ange vient tout à coup, à l'heure où Zacharie remplit son office, porte le parfum, il était 7 jours dans le temps, de sabbat en sabbat, dans sa classe. Et quelle surprise pour lui de voir un ange dans le temps. Alors l'ange vient lui dire, eh bien, écoute Zacharie, pas un encouragement pour nous et pour venir à la réunion de prière chez nous. Tes prières ont été exaucées. Il y avait peut-être bien des dizaines d'années qu'il ne priait plus pour avoir cet enfant. C'était trop tard. Bien que cela soit triste pour nous, le Seigneur ne nous a pas favorisés pour avoir un enfant. Nous devons accepter la chose. Et voilà, l'ange vient dire, Zacharie, tes prières n'ont pas été oubliées. Bien que tout semble impossible selon la nature à réaliser. Vous voyez? Mais celui qui va naître sur la scène, on va combien, je vais dire, c'est une créature. Tandis que celui qui va sortir du sein virginal de Marie, par l'opération toute puissante du Saint-Esprit, c'est le Créateur. Jean-Baptiste est un sanctifié, un homme mis à part. Mais celui qui va sortir du sein de Marie, c'est celui qui sanctifie. Quelle différence! Nous allons voir comment, si nous allons jusque-là, comment l'Esprit de Dieu prend soin de souligner la gloire du petit enfant. Jamais la mère n'est citée la première. Le petit enfant et sa mère. Nous, dans le langage normal, nous parlerions d'une mère et de son petit enfant. Mais jamais l'Esprit de Dieu n'emploie cette forme d'expression. C'est toujours le petit enfant et ensuite sa mère. Et nous verrons dans le cas de Siméon, si nous allons jusque-là, si le Seigneur nous apporte la grâce, comment cet homme intelligent parle du petit enfant. Alors, Zacharie et Élisabeth sont donc en scène dans ce premier chapitre, et maintenant, l'ange, après avoir parlé à Zacharie, va parler à Marie, nous n'allons pas nous attarder, nous avons déjà vu cela hier, bien que ce soit un sujet inépuisable et une très grande richesse, insurpassable. Et le Seigneur, l'ange va dire, tu concevras dans ton ventre, tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom Jésus. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps, prenons une minute pour essayer de l'expliquer aujourd'hui. Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification réelle de Jésus? Eh bien, si vous lisez par exemple l'introduction de l'évangile selon Matthieu par JSD, vous verrez quelques explications intéressantes. Jésus, c'est Josué, ou Josua, ou Joshua, c'est la même chose. Voyez les notes au bas de la page du prophète Agé, voyez d'autres notes, vous verrez que Joshua, Josua, Josué, Jésus, c'est le même nom. La première livraison du Nouveau Testament en français, le JND en 1856, ceux qui le possèdent, possèdent une petite richesse. Quant aux notes qui sont données, l'Épître aux Hébreux dit ceci. Chez nous, et si Josué leur avait donné le repos, il n'eût pas été question d'un autre jour. JND a traduit, et si Jésus leur avait donné le repos, parce que Josué et Jésus, c'est le même mot. L'un en grec, l'autre en hébreu. Donc, absolument, identification entre Jésus, nous répétons, Josué, Josua, Josué. Mais nous n'avons pas fini. Qu'est-ce que cela veut dire, Josué, Josué, Jésus? Ça veut dire comme la note à laquelle j'ai fait appel tout à l'heure, Jahoséa. Autrement dit, le diminutif de Jéhovah, qui est appelé Jah dans le prophète Isaïe, en Exode 15 déjà, le cantique est célébré à Jah, diminutif de Jéhovah, et en même temps, Oséa qui veut dire délivrance. Le prophète Osée veut dire délivrance. Josué, avant qu'il s'appelle Josué, il s'appelait Osée ou délivrance. Mais l'Éternel, en raison de la capacité de cet homme, change ton nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Osée, mais Josué. Donc Osée veut dire délivrance. Alors, le nom de Jésus, de Jéhovah Sauveur, c'est Jah Oséa. Autrement dit, Jah Jéhovah Sauveur. Tu appelleras son nom Jésus. Vous voyez, en cherchant bien, nous avons toute la signification de ce nom incomparable dans toutes les langues. Jésus, c'est Jéhovah Sauveur. Et Jéhovah, évidemment, c'est le nom que Dieu se donne à lui-même lorsqu'il peut affirmer qu'il est immuable à l'égard des promesses qu'il a faites. Ce n'est pas Jéhovah qui est dans le premier verset du livre de la Genèse. C'est Elohim. Mais lorsque l'homme est en scène, c'est l'Éternel Dieu. Et il n'y a que dans notre langue que nous avons l'Éternel. C'est Olivier Tan, cousin de Calvin, qui le premier introduit ce terme prestigieux pour parler de Jéhovah dans toutes les autres langues. Peut-être qu'il y aura une exception, mais en général, dans toutes les autres langues, vous avez Jéhovah. C'est en français que nous avons l'Éternel. C'est Olivier Tan qui a trouvé l'équivalent d'Éternel, de Jéhovah, dans ce terme éternel. Pourquoi ? Parce qu'il l'a trouvé dans le livre de l'Exode, auquel la première page de la Bible fait allusion. Vous ne savez plus, après la captivité, comment prononcer Jéhovah. C'est un nom composé de quatre consonnes. On ne peut pas prononcer les consonnes. Autrement dit, nous ne pourrons pas enfermer Dieu dans les limites de l'esprit humain. Alors, c'était le souverain sacrificateur en sortant du temple qui prononçait la bénédiction, qui le seul, une fois l'an, citait le nom de Jéhovah selon nombre 7. L'Éternel te bénisse et te garde, etc. Mais personne n'osait prononcer ce nom, c'est pourquoi on appelait l'Éternel, Jéhovah, le béni. Es-tu le fils du béni? Ne disent pas, es-tu le fils de Dieu? Craignez bien trop, dans leur superstition religieuse, ils n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils disaient le béni, ou le Seigneur Adonai, psaume 2, vous avez la note Adonai. Alors, en 1518, par là, c'est un certain Galatinus, un moine, juif converti, qui a introduit les voyelles de Adonai entre les consonnes de J-H-V-H, comme vous l'avez au bas de la page de Genèse 1, pour reformer ce nom de Jéhovah. Mais on ne pouvait pas le prononcer autrefois. Alors, qu'est-ce que veut dire Jéhovah? Là, on ne fait aucune erreur. Moïse dit à l'Éternel, mais je vais aller chez les fils d'Israël où tu m'envoies. Ils vont me dire, mais quel est le nom de celui qui t'envoie? Que vais-je leur dire? Qu'est-ce que l'Éternel répond? Tu leur diras, je suis envoyé vers vous. Et là, il insiste en disant, je suis celui qui suis. Et quand le Seigneur, dans l'évangile seul de Jean, est au milieu des Juifs, que leur dit, avant qu'Abraham fût dans le passé, dans le livre de la Genèse, je suis. Je suis, personne ne peut le dire parmi nous. Vous ne pouvez pas dire je suis. Ni moi non plus. Parce que quand j'ai dit je suis, à un moment, je ne suis déjà plus. Le temps nous poursuit, nous nous envolons. Mais Dieu peut dire, lui, je suis. C'est le présent perpétuel. C'est l'existence éternelle de Dieu. Indépendamment de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je suis celui qui suis. J'étais hier, je suis. Demain, je serai, je suis. Hier, j'étais ce que je serai ce que j'étais. C'est-à-dire, je suis. Il n'y a que Dieu qui peut dire, je suis. Eh bien, avec Jésus, chers amis, vous avez tous ces titres, toutes ces gloires fondues dans ce nom. Jéhovah Sauveur, je suis celui qui suis. Jah, Jéhovah Sauveur. Jah, Oséa, autrement dit, Josué, Jésus. Tu appelleras son nom Jésus. Il n'y avait personne qui s'appelait Jésus au ciel avant qu'il vienne sur la terre. Et il y a un homme maintenant qui est au ciel qui s'appelle Jésus. Il n'y avait personne qui était appelé du nom de Jésus au ciel. Mais Jésus est monté au ciel à travers tous les cieux, ressuscité dans la puissance d'une vie imperissable. Salué par Dieu, celui qui est descendu dans les parties inférieures de la terre est le même Jésus qui est monté au-dessus de tous les cieux. Qui es-tu, Seigneur, qui me jette par terre sans que je puisse me proposer la moindre résistance? Je suis Jésus. Seigneur, réponds depuis la gloire, son nom, ce qu'il est, Jésus, ce qu'il demeure est éternellement. Voilà, chers amis, quelques mots pour situer un peu la valeur de ce message à Marie. Elle en a bien compris la portée. Humble fille, elle est privilégiée entre toutes. Toutes les femmes en Israël souhaitaient devenir la mère de celui qui était annoncé par le prophète qui avait dit derrière l'enfant un fils. Ah, dit-elle. Et donc, je lui dis, tu es bénie entre les femmes. Cette faveur qui était promise dans l'Ancien Testament, la voilà réalisée pour toi. Nous arrivons maintenant à notre premier cantique que nous voulons essayer de voir dans un des aspects de ce petit résidu dont nous avons parlé, c'est à partir du verset 30. Donc, nous avons déjà dit quelque chose de Jean. Jean est un homme extraordinaire qui va faire penser à Christ. On va lui dire, mais tu n'es plus pas le Christ, mais il peut être des choses extrêmement. Il était tellement extraordinaire dans sa manière d'être, dans ses vêtements qu'il portait, dans les déclarations qu'il faisait avec une netteté et un percutant auquel personne ne pouvait résister, ne craignant ni l'un ni l'autre, disant à Hérode, ce que tu fais, c'est une abomination. Personne n'aurait osé dire cela, sinon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort à la moitié de ses jours, bien que sa tête a été enlevée en raison d'une femme abominable, d'une femme cruelle, qui a voulu voir la tête de Jean-Baptiste séparée de son corps. Peut-on imaginer femme aussi vile que celle-là, cruelle, sanguinaire. Nous dirions quel malheur qu'un tel homme, à cet âge, soit retranché. Quelle triste circonstance nous nous lamenterions là-dessus. Mais comment la parole de Dieu parle-t-elle, chers amis? Pas comme nous pensons. Dans le livre des Actes, il y a un commentaire sur la mort de Jean-Baptiste avant d'avancer ce que nous avons devant nous. Nous avons le chapitre 13, au verset 24, pour faire court. Jean, ayant déjà immédiatement avant son arrivée, prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il dit, qui pensez-vous que je suis? Vous voyez comment l'Esprit de Dieu parle pour Jean, sa course était achevée, si brève qu'elle soit. Et si lamentable que soit sa fin, dans les conditions où elle s'est déroulée dans la prison, pour Dieu, la fin de la course de Jean était une chose accomplie. Et comme Jean achevait sa course, pour nous montrer, nous n'avons pas de chance, ni de malchance, ni de hasard dans la parole de Dieu. Pour Dieu, si regrettable pour nous que soit la fin d'un homme de cette valeur, sa course, elle était achevée. C'est un encouragement pour nous. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous avons à passer, savons bien qu'elles sont dans la main de Dieu. Nous ne sommes pas le jouet de circonstances fortuites, jetées comme un fétu sur les eaux, sans aucun contrôle. Dieu est au-dessus des grosses eaux, si grosses qu'elles soient. Et dans le prophète Daniel, il emploie un mot qui nous rassure à ce sujet-là. Tant que les eaux vont tout emporter, mais il y a un homme vêtu de lin au-dessus des eaux du fleuve. Vous savez bien comment les eaux sont employées dans la parole de Dieu pour montrer ce qu'est l'épreuve dans son intensité, lorsqu'elle peut Ah ben, j'ai pris dans mon revue, dans le psaume 93, au verset 3. Les fleuves ont élevé, ô Éternel, les fleuves ont élevé leur voix, les fleuves ont élevé leur rugissant. Fleuve qui veut tout emporter pas de l'épreuve dans son intensité. Mais l'Éternel, dans les lieux hauts, est plus puissant que la voix des grosses eaux, que les puissants vagues de la mer. Au-dessus des eaux, quel que soit leur tumulte, quelle que soit l'ampleur de leur mouvement, Dieu est au-dessus de toutes les eaux. Le prophète Daniel, dernier chapitre, nous montre l'homme au-dessus des eaux du fleuve pour les contrôler. Et il y a un personnage de ça, un personnage de là, qui canalise le fleuve. Et alors, il y a encore la rassurante réponse. Le prophète est intéressé de voir cet homme au-dessus des eaux. Il les contrôle, les anges, d'un côté et de l'autre, pour montrer que ce fleuve ne peut pas déborder la limite que Dieu lui a donnée. Et d'autre part, le prophète dit, mais jusqu'à quand? Et c'est une épreuve terrible que le peuple va passer. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Jusqu'à ce que, non seulement il contrôle l'intensité de l'épreuve dans les eaux qui semblent tout engloutir, mais il en a mesuré aussi le temps. Jusqu'à ce que, il y aura un temps, des temps, et une moitié de temps. Et pour rassurer le résidu à qui la parole est adressée directement, il dira demain 1260 jours. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Alors, dans le cas de Jean, qui en fait nous a été annoncé, sa mère est là maintenant, et ce sera donc le plus grand des hommes de la terre, nous le savons bien. Alors, Marie, après avoir reçu ce message de l'ange, verset 39, nous allons voir, essayer de voir ces deux cantiques ce soir avant de nous séparer, elle va au pays des montagnes trouver sa parente Zacharie, sa parente Élisabeth, femme de Zacharie. Alors, comme elle entrait, salutation de Marie, le petit enfant tressaillit de joie dans son ventre. Il s'agit donc de Jean-Baptiste. Et en entendant Marie, qui est la mère de son maître, ce petit enfant, déjà dans le ventre de sa mère, tressaille de joie. Alors, c'est un nouvel élément que nous ajoutons à ce que nous avons pu dire. Eh bien, c'est un homme qui a connu beaucoup de peine, sans doute, mais c'est un homme qui a été heureux. Et déjà dans le ventre de sa mère, il tressaille de joie. Et il pourra dire cette joie qui est la mienne, d'être le précurseur du Sauveur. Parce que lui l'a vu, tous les prophètes en ont parlé, les gens l'ont vu. Il a vu de près celui dont il était le précurseur. Voix de celui qui crie dans le désert. Moi je ne suis rien, je ne suis qu'une voix. Mais le voilà celui dont il était parlé dans l'Écriture. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme Dieu me l'a indiqué. Et cette joie de m'abaisser, de lui donner toute la place, et moi de prendre la dernière, c'était ainsi dans chaque assemblée, j'en ai pour tous les frères et toutes les sœurs, vous savez, nous répétons, mais nous le disons pour nous, croyez-le bien, mais toutes nos difficultés s'épanouiraient. Alors Jean dit, cette joie qui est la mienne, de m'abaisser, et il s'abaisse tellement qu'il dit, je ne suis pas digne de délier, même en me baissant la courroie de ses sandales. Le plus grand des hommes de la terre parle ainsi de son maître. Parce que le Seigneur l'a dit, il n'y a personne qui est né de femme, qui soit né de femme, qui soit plus grand que Jean. Et il dit, je ne suis pas digne, même en me baissant, de dédier la courroie de sa sandale. Mais cette joie de m'abaisser ainsi, qui est la mienne, elle est accomplie. Et elle commence déjà ici, dans le ventre de sa mère. C'est extraordinaire ça. Alors c'est l'occasion d'entendre le premier cantique. Et vous allez voir qu'il y a une suite extraordinaire quand on lit attentivement chacun de ces cantiques. On peut les placer dans un écrin. Ce sont véritables joyaux que l'on peut mettre côte à côte. Élisabeth, verset 41, fin du verset, fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria haute voix et dit, tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Élisabeth, c'est la première qui chante un cantique. Femme simple, effacée, mais fidèle, le drame a été joué avec le péché. Dieu indique que c'est par la femme que la semence de la femme sera menée sur la scène pour briser la tête du serpent. Si elle a été l'instrument pour amener le mal sur la terre, elle sera aussi le canal par lequel celui qui va détruire les œuvres du diable et briser la tête de celui qui a introduit le mal dans le monde, c'est par elle celle qui sera la mère de la semence de la femme. Quel titre glorieux du Seigneur ! Eh bien, le voici, cher ami. Tu es béni entre les femmes, tu es celle dont l'Éternel a parlé dès que le mal a été introduit dans le monde, qui devait amener sur la scène la semence de la femme, et la semence de la femme, tu es celle, en s'adressant à Marie, tu es celle qui la porte dans ton sein. Donc, ce premier cantique nous ramène à la première page de la Bible pour célébrer, pour souligner l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dès le commencement à l'égard de la femme et à l'égard de la semence de la femme qui devait venir un jour sur la terre pour briser tout le pouvoir du diable. Sans doute aurait-il le talon brisé, mais par la mort, il brise à jamais le pouvoir de la mort. En se soumettant volontairement à la mort, il a anéanti, en entrant dans la mort, le pouvoir de celui qui la détenait. Par la mort, Dieu nous a délivrés de la mort. L'Église d'Israël n'était pas délivrée par le sang de l'agneau pascal. Sans doute, le jugement de Dieu était arrêté. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, mais Israël n'est pas sauvé pour autant. Ils sont tous en Égypte, incapables de se libérer de leur chaîne. Que faut-il encore ? Il nous faut la rédemption par le sang, l'agneau, et il nous faut la rédemption, nos frères ont écrit tout cela. Il nous faut la rédemption par puissance. Et c'est à travers la mer Rouge qu'ils vont connaître la délivrance et pouvoir chanter sur l'autre livre ce qu'ils n'ont pas pu faire en Égypte, bien que épargnés du jugement. Mais en entrant dans la mort, figure de la mort de Christ à laquelle ils ont part, ils sont délivrés de l'Égypte, délivrés du monde et de la puissance de celui qui est le chef du monde qui sera englouti dans les eaux de la mer. Dieu prend contre lui à la mer Rouge, tous nos ennemis, et les anéantit pour toujours. C'est pour cela que l'on peut chanter sur l'autre livre. Eh bien, nous avons cela dans une seule proposition de cette femme. Elle nous amène devant ce qui est incommensurable, devant ce qui va remplir toute l'éternité. Tu es béni entre les femmes. Dieu a accompli sa promesse par la femme qui a introduit le mal. Voici maintenant que tu es sur la scène, choisie pour amener celui dont il a parlé, en disant « la semence de la femme te brise à la tête ». Toi, tu vas lui briser le talon. Premier cantique, chanté par Élisabeth à l'égard de la semence de la femme. Quel est le deuxième cantique ? Eh bien, nous avons vu plus loin, mais nous ne pourrons pas nous arrêter, parce que sinon nous n'arriverons jamais au bout de notre sujet, chers amis. Mais remarquons que maintenant, Marie, à partir du verset 46, va nous dire des choses extraordinaires. Et vous pouvez souligner sept choses différentes qu'elle va nous dire après l'introduction, le chant qu'elle va faire, mon âme magnifie le Seigneur, etc., dans les versets 46 et suivants. Mais à partir du verset 51, elle nous montre déjà, elle, dans sa foi, que tout est accompli. Il n'y a rien d'accompli dans ce moment-là. Les puissants sont sur leur trône, les Romains sont ceux qui domine sur Israël et qui écrase ce pauvre peuple, il n'y a rien d'accompli dans ce que cette femme nous dit. Mais sa foi est telle qu'elle anticipe, en raison de celui qui va naître, dont elle est la mère, en raison de celui qui va naître, elle anticipe tout ce qui aura lieu au jour de la délivrance. Car ses droits n'ont pas été abrogés, il était venu pour faire cela. Mais hélas, rejeté, méprisé, crucifié, ses droits ont été foulés aux pieds, mais n'ont pas été abrogés, car il faut qu'il règne. Et quand il entrera dans son règne, tout ce que nous avons là, sept points essentiels, seront accomplis. Ceci dit, soulignons maintenant quel est le cantique d'Abraham, et le cantique de cette femme. Il a pris, verset 54, c'est la dernière chose qu'elle dit, des sept points que nous avons essayé de mentionner. Il a pris la cour d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Un pas de plus dans l'histoire de la révélation, dans ses cantiques, chantés par de pauvres gens, affligés, sans relief, méprisés sans doute, Au milieu d'un état de choses religieux, vous avez vu que dans l'histoire de Zacharie, tout le peuple est là au temple pendant qu'on offre le parfum. Il y a une activité religieuse. Mais, chers amis, ce peuple m'honore des lèvres et d'éternel, mais leur cœur est loin de moi. Mais ceux-ci ont leur cœur près du Seigneur. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais cette femme, Marie, après avoir énoncé sept fois que le Seigneur va faire, elle nous amène devant ce cantique particulièrement précieux pour nous et qui a comme objet les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ce nom de la femme, Élisabeth. Maintenant, promesse que Dieu a faite à Abraham, deuxième cantique chanté par Marie et promesses qui nous sont données à nous, qui sont étendues jusqu'à nous, parce que Abraham, l'Éternel, a dit, déjà au chapitre 12, il ne cite même pas son peuple, il dit « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Et si vous voulez bien chercher dans ce que J.M. dit dans le livre aux Galates, lorsqu'il est question de ces passages du livre de la Genèse, c'est très important. Alors, il nous faut venir jusqu'au chapitre 22, lorsqu'Isaac a été en figure mis à mort et qu'il est ressuscité, pour que Dieu reparle de la semence d'Abraham, non pas seulement de sa descendance, mais de Christ. Et à ta semence qui est Christ, la voici. Alors, la semence d'Abraham, chapitre 22, Dieu dit, « Parce que tu as fait cette chose-là, Abraham, parce que tu m'as offert ton fils, que tu es allé jusque-là, eh bien, je n'ai personne de plus grand par qui jurer. Je lève ma main aux cieux, je dis, je vis éternellement, et je jure par moi-même que je vais te bénir. » Et ta bénédiction, elle a dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, vous pouvez voir, elle a deux sens. Je vais bénir ta semence. Elle sera semblable aux étoiles des cieux, elle sera semblable au sable qui est sur la mer. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Qu'est-ce que ça veut dire, cher homme? Bien, déjà, d'une manière voilée, l'Esprit de Dieu introduit la pensée de l'Église. Une semence qui est au ciel, ce sont tous les descendants d'Abraham qui sont morts dans la foi. L'Épître aux Hébreux nous parle des esprits des justes consommés. Il y a une semence d'Abraham qui est au ciel. Il y en aura une demain qui sera sur la Seine, c'est aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer. Mais en toi seront bénies toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tu vas les tirer de toutes les familles de la terre, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique, de partout, une épouse pour son fils. Mais c'est parce que tu as fait cette chose-là, de sorte que cette femme, avec l'intelligence que Dieu lui donnait par le Saint-Esprit, elle nous amène à Abraham et à la semence d'Abraham qui, ici, il n'y a pas de doute, est Christ, en association avec tous ceux qui lui sont donnés en vertu de l'œuvre qu'il va accomplir. Vous voyez quelle richesse d'enseignement et de cohésion et de suite, nous venons de la semence de la femme et nous passons ensuite envers Abraham et envers sa semence à jamais. Un petit détail, au verset 40, elle a dit « Car le puissant m'a fait de grandes choses. » Car le puissant m'a fait de combien de fois trouvons-nous le verbe puissant adressé à Dieu? Pour la peine de chercher. Maintenant, nous avons une concordance qui nous permet de chercher facilement. C'est un grand bienfait. C'est peut-être aussi dommage parce que ça nous rend un peu paresseux. Il n'y a qu'à ouvrir la page et nous avons tous les passages. Donc, je crois qu'il fallait quand même lire et chercher. Enfin, je dis sans façon. Mais combien de fois trouvons-nous le puissant? Dieu puissant. Mais comme substantif, comme nous l'avons ici. Nous avons sept fois le puissant de Jacob. Voilà, vous pouvez chercher, vous verrez. Sept fois dans la parole de Dieu, nous avons le puissant de Jacob. Pour montrer que Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant, mais en faveur de son peuple, en faveur de Jacob. Mais cette femme, étant donné que celui qui va naître pour déployer la grâce de Dieu envers toutes les nations, elle ne l'appelle plus le puissant de Jacob. Elle laisse tomber Jacob. C'est le seul passage où vous ne trouvez pas le puissant de Jacob. Il y en a six avec le puissant de Jacob, mais dans le Nouveau Testament ici, c'est le puissant. Plus de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de toutes les nations. Et Dieu voulait se révéler comme le Père, non pas seulement comme l'Éternel, mais comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous gens les plus éloignés qui soient. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, gens des nations, sans droit de cité en Israël. Et voilà que, voyez, le puissant Jacob est tombé, mais la puissance de Dieu est à l'œuvre envers nous. Et qui est cette puissance? Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous avons donc deux cantiques, j'en ai mis deux devant maintenant de vous arrêter, l'heure est là, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Demain, si le Seigneur nous permet, nous aurons encore d'autres cantiques. Je ne sais pas si nous irons jusqu'au bout, parce que c'est un sujet d'une très grande richesse. Ce que nous retenons, c'est que les sept points de cette femme seront accomplis demain, lorsqu'au verset 54, pour elle, non pas il prendra, mais pour elle, c'est déjà une chose faite, il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères envers Abraham, et envers sa semence à jamais. Elle n'oublie pas Israël son Dieu, mais elle introduit la semence d'Abraham, c'est-à-dire Christ, en association avec lui. Et à ta semence qui est Christ. Et dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Romains, Paul va montrer que ceux qui sont de la foi, ceux qui ont la foi, sont associés avec Abraham. Parce que les Juifs auraient voulu dire, oui, mais c'est à nous que les promesses appartiennent. Dernier mot. Bon, vous dites que les promesses vous appartiennent sur le pied de la descendance naturelle. Alors, vous devez accepter les fils d'Ismaël, vous devez accepter les Arabes, les Ismaélites. Ah non, disent-ils, nous n'avons rien de commun avec le fils d'Ismaël. En effet, Dieu est souverain et il a dit Abraham, et en Isaac te sera appelée une semence. Il n'a pas choisi Ismaël, il a choisi Isaac. Donc, sur le pied des promesses, là, ils avaient sur le pied des promesses selon la chair, ils avaient raison, Dieu avait écarté Ismaël. Mais d'un autre côté, Paul leur dit, mais que faites-vous alors des hommes, des élus? Vous ne pouvez que dire qu'il y a une différence entre vous. Vous avez le même père, vous avez la même mère, vous devenez au même moment, deux frères jumeaux. Pourquoi Dieu dit-il, le plus grand sera servi au plus petit? Il ne dit pas, vous la genèse, j'ai Esaü, il faut bien faire attention à cela. L'apôtre leur montre que c'est bien sur le pied de l'élection et de la grâce que quelqu'un est introduit devant Dieu. C'est à la fin de l'Ancien Testament qu'il dira « J'ai haï Esaü ». Mais au commencement, dans le livre d'Agnès, chapitre 28, Dieu ne parle jamais de haïr Esaü. Mais il dit souverainement « J'ai choisi Jacob, le plus grand, Esaü sera servi au plus petit ». Voyez bien, chers amis, voilà quelques-unes des promesses de Dieu que cette femme là devant nous avec Abraham, et Paul dira, et tant que nous sommes possesseurs de la foi, nous sommes des enfants d'Abraham avec qui nous allons hériter tout ce que Dieu a conçu en lui-même pour sa gloire et pour notre bonheur.